Hop là.
Merci bien.
C'est tout bon pour toi?
C'est parfait.
Bonne émission à vous.
Moi, je te laisserai faire le Tetris après, enfin, le montage et tout. Hein.
Je sais, je sais. S'il y a besoin de quelque chose, tu m'appelles.
Ouais, pas de soucis, merci. Hop, donc on va pas être trop mal là. Pourquoi il y a ça et ça?
RKS, l'esprit grenoblois.
Ok. Ok, allez, bon, on est bon, on est parti. Je vais couper le téléphone. Hop. C'est bon, vous êtes prêts? Donc, je vais lancer l'émission. Je fais toujours une petite présentation de l'émission. Après, j'annonce 2-3 actus que j'ai pioché un petit peu à droite, à gauche. Et dès que c'est bon, bah, après, je vous dis, bah, sans transition, je passe avec mes deux invités, Manu et Boob. Donc, okay. C'est Boob et Cœur bouche la game.
C'est hein, ça.
Que je fasse pas de,
c'est ça.
De problème, quoi. Ok. Allez.
T'as préparé les questions?
Ouais, bah, bien sûr, j'étais obligé. J'étais obligé. Je vous laisse bien, par contre, parler près du micro. Après, s'il faut, je réglerai, mais... Hop. Voilà. Allez, on y va. C'est parti.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Salut à tous, c'est Kevin et vous êtes sur RKS pour votre émission Rien à foutre, l'émission qui vous informe sur l'actualité footballistique en Isère. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour parler football et mettre en lumière nos clubs amateurs. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle émission spéciale avec de nouveaux invités. Ils portent aujourd'hui le nouveau visage et ils sont au cœur du grand projet de leur club du FC Vallée de la Grèce. Manu Ribeiro et Boubekir Bouchlaghem sont mes invités du jour. Avec eux, nous reviendrons sur leur parcours et les choix qui les ont poussés à accepter ce nouveau challenge. On parlera bien sûr de ce qui va changer dans ce club. Mais avant tout cela, on va démarrer comme d'habitude par les principales actualités footballistiques de la semaine. Vous êtes sur RKS, bienvenue dans Rien à foutre.
RKS, l'esprit grenoblois.
Et on a quelques infos quand même qui nous viennent principalement du GF38 cette semaine. Donc on a notamment l'entraîneur Julia Arpizou qui était en charge des féminines du GF38 après le départ de Nicolas Bach qui ne sera pas conservé par le GF38 qui cherche un nouveau coach pour ses féminines. Yorick Ravé de retour au GF38 dix ans après son départ de son club formateur et après des expériences en Suisse et en Allemagne très concluantes. Et bien le joueur a décidé de revenir au Bercail et il signera un contrat de 3 ans. On lui souhaite un bon retour chez nous. À noter que Jordi Gaspard, ancien joueur formé par l'OL, s'est aussi engagé avec le GF38. Sans transition, j'accueille mes deux invités, Boubekir Bouchlaghem et Manu Ribeiro. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Bon, je suis très content de vous avoir parce que déjà je suis toujours content d'avoir des nouveaux invités dans cette émission parce que souvent on a quelques invités qui viennent et qui reviennent dans cette émission parce que c'est vrai que bah, c'est compliqué des fois de trouver aussi des personnes qui sont disponibles pour venir jusqu'à la radio nous voir. Donc on a eu pas mal de retours, on va dire, pendant notamment les périodes de confinement, c'était compliqué d'avoir tout le monde. Comment ça s'est passé cette période de confinement pour vous?
Pour moi, du repos.
Ouais.
Ouais. À tous les niveaux.
C'est vrai, ça fait du bien.
Ça fait du bien.
Ouais, ça t'a permis de te ressourcer.
Sincèrement, je dis que oui.
Ouais. Bon, ouais. Super. Et ça t'a permis justement aussi de te concentrer sur l'avenir, Manu.
Oui, oui, ça m'a permis de réfléchir.
Ouais.
D'écouter.
Ouais.
Et puis de valider.
Ouais. Bon, bah c'est super.
Voilà.
Parfait. Et toi, Boob?
Ça va. Bien passé. Ça va. Ça m'a permis de couper aussi un petit peu.
Ouais.
Parce que ça a commencé à tirer au bout d'un moment.
Ouais.
Et puis ça m'a permis aussi de faire quelques travaux à la maison.
Ouais.
Voilà.
Bon.
Et puis comme disait Manu à l'instant, de réfléchir un petit peu aux propositions et puis d'avoir de nouveaux challenges.
Ouais.
Et qu'un club nous fasse confiance.
Ouais. Bon, bah c'est super. On va en parler justement. C'est un petit peu le grand thème, on va dire, de cette émission aujourd'hui. Hein. L'émission, elle a des couleurs rouge et blanche aujourd'hui parce qu'on va parler justement de ce nouveau projet du FC Vallée de la Grèce. Parce que comme je l'ai dit dans la présentation, c'est vrai que vous incarnez un petit peu à tous les deux ce renouveau ou du moins ce changement un petit peu de cap que le club a souhaité prendre, notamment par rapport au départ de Christophe Cunha qui était entraîneur et responsable de la catégorie senior depuis, on l'a dit maintenant, depuis 18 ans. Donc il y a eu effectivement le départ de Christophe, il fallait remplacer ce départ-là. Et il y avait aussi une volonté aussi de changer aussi de manière de faire, de restructurer le club un petit peu en profondeur. Donc c'est pour ça notamment qu'ils ont fait appel à toi, Boub, en tant que directeur sportif. Mmh. Et Manu, du coup, toi, tu prends en charge les seniors 1 de la Vallée de la Grèce et tu vas aussi un petit peu chapeauter, je suppose, le reste des équipes seniors.
Ouais, j'aurai toute la responsabilité des seniors.
Ouais, ouais.
Et que ce soit la 1, 2, 3.
Ouais.
Et puis, en collaboration avec les éducateurs, on va essayer de mettre quelque chose en place de cohérent.
Ouais.
Bien sûr, et d'esprit club.
D'accord.
C'est la priorité.
Ok. Bon, voilà. Bah, super. Super. Alors moi, j'aimerais bien que, avant qu'on passe aux questions, j'aimerais bien que vous vous présentiez, que vous présentiez votre parcours, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas bien, qui sont Boubekar Bouchlaguem et Manu Ribeiro. Donc, je voulais vous laisser vous présenter votre parcours et nous expliquer aussi un petit peu pourquoi vous avez choisi justement tous les deux de donner une nouvelle direction à votre carrière. Qui commence ?
Bon.
Allez, vas-y, Boub.
Allez. Moi, beaucoup de personnes me connaissent. Hein, dans le monde du football, c'est un monde familial, donc on se connaît tous les uns et les autres. Moi, je suis originaire de Saint-Martin-l'Air au départ. Puis mes parents ont déménagé, sont allés s'installer à Vif.
Oui.
Voilà, donc dans les années 80.
Oui.
Où j'ai commencé à taper dans le ballon.
Oui.
À l'époque, à Vif. Mm-hmm. Il n'y avait pas encore cette fusion-là. Ensuite, il y a eu la fusion Vars-Vif.
Ouais.
Avec un club qui se structurait aussi. Et puis financièrement, il n'y avait pas trop d'argent. Et puis les saillants du gars qui sont venus se greffer en fait à ces deux clubs. Mm-hmm. Où ils ont fait la fusion Vallée de la Grèce.
Ouais.
Donc moi, toute ma carrière footballistique, on va dire, elle s'est faite dans ces clubs-là.
Ouais.
Du débutant jusqu'à senior.
Ouais.
Avec notamment une belle époque, avec l'époque Claude Converso, où il y avait vraiment une réalité familiale dans ce club-là, où il y avait vraiment une belle osmose, des bons parcours, parce qu'on a notamment fait deux fois au 7e tour de Coupe de France. On a fait trois accessions, une accession consécutive avec, en excellence en PHR à l'époque.
D'accord, ok.
Ensuite, on a fait PHR-DHR.
Ouais.
On était dans un rôle où on pouvait monter en DH. À l'époque, ça s'est pas fait. On a fini deuxième.
Mmh.
Voilà. De là, j'ai été contacté par Christophe Cunha, justement.
Oui.
Voilà, où je suis parti faire deux années à Rhône-Poulenc.
Oui.
À l'époque, où Cunha était en charge de Rhône-Poulenc.
Oui.
Et j'ai fini à Saint-Paul-de-Vars.
Oui.
Une dernière année.
D'accord.
Voilà. Un peu plus familial, un peu plus convivial.
Mmh.
Ouais, pas trop de compétition, mais plus un esprit
oui.
Famille.
Mmh.
Et puis, de là, j'ai arrêté.
D'accord.
J'ai arrêté, je me suis marié entre-temps, donc je me suis un peu plus consacré à la famille.
Oui.
Ensuite, j'ai déménagé, j'ai acheté un appartement sur la commune de Saint-Martin-d'Air. Je suis revenu à mon départ.
D'accord.
J'ai eu un enfant. Donc, et puis là, j'ai remis les pieds à l'étrier.
D'accord.
Parce qu'il est rentré au GF 38 en débutant. J'avais besoin de bénévoles, d'éducateurs, donc je me suis remis au foot.
Oui.
Et de là, j'ai repris la passion.
D'accord.
Et j'ai passé mes diplômes les uns après les autres, même si c'était un peu tard, mais voilà.
Ouais.
Et j'ai fait 15 belles années au GF 38 en tant qu'éducateur.
D'accord.
Où je suis passé par toutes les catégories.
D'accord.
Au départ, comme je disais, à l'école de foot avec les U9. Ensuite, j'ai eu la responsabilité de l'école de foot.
Mm-hmm.
Je suis passé par la catégorie U13 ensuite, en passant mon CFF 2.
Mm-hmm.
Derrière, j'ai enchaîné avec les U15 élites. Pendant 3 années.
D'accord.
Où j'ai passé mon CFF 3. Je suis redescendu sur la catégorie U14 un peu après. Et là, ces 3 dernières années, j'étais avec les U13 et adjoint avec les U17 nationaux.
D'accord.
Et ça m'a permis aussi de passer mon BMF.
D'accord.
Voilà, que j'ai validé il y a 2 ans.
D'accord.
Voilà.
Une grosse carrière au GF 38 alors.
Une grosse carrière, ouais. Grosse carrière avec de belles expériences, avec des liens,
ouais.
Des liens très importants pour moi, notamment avec un président qui fait tout pour que le club du GF 38 au niveau de l'association puisse travailler et avancer, monsieur, au nom d'Alain Fessler.
Oui.
Avec un homme aussi qui est monsieur Franck Germinario, que j'apprécie énormément. Qui m'a beaucoup aidé, qui m'a épaulé. Et puis, cerise sur le gâteau avec M. Taffer, qu'on appelle Coucou, dans le monde du football.
D'accord.
Qui est un homme remarquable et qui m'a appris beaucoup de choses aussi, de sa personne surtout,
D'accord.
de ses valeurs,
mmh.
et sur le plan footballistique aussi, en tant que coach.
D'accord.
Voilà. Okay. J'ai beaucoup appris à côté de ces personnes, sans oublier aussi mes collègues de terrain, que ce soit ces dernières années là, ces deux dernières années avec Lucas Pouliquin ou avec Didier Divani, où on a travaillé beaucoup en collaboration.
Lucas que j'ai eu d'ailleurs dans cette émission pendant le confinement.
Ouais, qui est venu, oui.
Ouais.
Des amis que voilà, on fait beaucoup 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 de rencontres.
Ouais.
Et c'est des diversités qui sont intéressantes.
Ouais.
Et je pense que le monde du football aussi rassemble.
Ouais.
Et c'est intéressant.
Mmh.
Voilà, mais on a appris à connaître beaucoup de choses, du monde professionnel au monde amateur.
Ouais.
Parce que j'ai connu la Ligue 1.
Ouais.
Et j'ai connu le dépôt de bilan.
Ouais.
Où il fallait reconstruire, il fallait avancer.
Ouais.
Malgré ça.
Ça n'a jamais remis en question ton attachement au club?
Non. Je suis pas. J'étais pas au club du GF 38 parce que c'était un club de l'aglo qui était en Ligue 1, où j'étais là vraiment pour pouvoir apprendre.
Mmh.
Et transmettre ce que j'avais appris aux gamins.
D'accord, ok. Mmh.
C'est pour ça que d'ailleurs, quand je parlais de la catégorie 15, où on était beaucoup dans la compétition, c'était beaucoup dans la compète, il fallait prendre des points parce qu'il ne fallait pas descendre. Alors que quand j'ai repris la catégorie 14, on était plus dans une question d'apprentissage, où on transmettait, que ce soit des valeurs ou des compétences footballistiques. Et c'est ça qui est intéressant en fait.
D'accord, voilà. Ok. Et quand on fait justement toutes ces années au GF 38, qu'est-ce qui fait justement que tu prends la décision finalement de partir et de rejoindre ton ancien club de la Vallée de la Grèce?
Il y a plusieurs paramètres.
Mm-hmm.
Le premier paramètre, c'est un projet à la Vallée de la Grèce qui est intéressant.
Oui.
Voilà, avec cette restructuration, avec cette envie d'avancer.
Oui.
Ou quand j'ai rencontré Franck Agassi, au départ, c'était même pas pour le poste de directeur sportif, c'était pour prendre en charge l'équipe première.
D'accord.
Quand on a échangé, que j'ai fait part de mes sentiments, comment un club devait travailler, et il m'a tout de suite dit, mais ton rôle, c'est pas entraîneur de l'équipe première, ce serait plus sur le travail d'un directeur sportif. Est-ce qu'avec ce que tu avances là, ça serait plus intéressant pour nous?
D'accord.
Donc j'ai réfléchi et puis j'ai dit pourquoi pas, j'accepte.
D'accord.
Ensuite, pour revenir un peu à mon départ du GF 38, c'est que j'avais peut-être aussi besoin de voir autre chose.
Mm-hmm.
Voilà, j'avais un club qui m'a contacté, qui me faisait confiance.
Mm-hmm.
Donc j'ai pas refusé le poste.
D'accord.
Voilà. Même si aujourd'hui, je serai toujours présent au GF 38 pour aller voir les matchs. Voilà, c'est pas un club que j'ai appris beaucoup avec eux, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont fait passer mes diplômes, donc c'est pas un club que je suis parti fâché entre
eux. Oui, d'accord, okay, ça s'est bien terminé.
Ça s'est super bien terminé. Si demain, c'est pas ce que peut prévoir l'avenir, hein, mais voilà, si dans 3 ans, 4 ans, on me fait appel.
Oui, tu t'interdis aucun retour.
Voilà.
D'accord. Voilà. Ok. Bon, d'abord, il y a du travail à la Vallée de la Grèce.
Oui, là, il y a du travail. Il y a du travail.
Et ben, on y reviendra justement un petit peu après. Je vais passer du coup la parole à Manu. Tu nous expliques un petit peu ton parcours.
Et ben, mon parcours, il est très très long.
Ouais.
Puisque j'ai commencé à jouer à l'âge de 11 ans.
Ouais.
Puis j'ai été fidèle à mon club de Rive.
Ouais.
On a joué jusqu'en régional.
Oui.
J'étais entraîneur-joueur à ce moment-là.
Oui.
Et j'ai commencé à être éducateur à l'âge de 15 ans.
Mm-hmm. Assez tôt, alors, du coup?
Assez tôt, oui.
Mm.
Vraiment assez tôt. J'avais déjà on appelait ça les poussins.
Oui.
Et puis, j'ai enchaîné derrière. J'ai fait toutes les catégories.
Mm.
J'ai commencé à être entraîneur des seniors à 29 ans.
D'accord.
Puis jusqu'à maintenant.
Ouais.
J'ai fait aussi, j'ai été responsable technique du club qui a été créé autour du lac de Charavine qui s'appelle l'Ascol.
D'accord.
J'étais à l'origine justement de cette appellation.
Ouais.
Et j'ai fait aussi président.
Mmh. Oui, d'accord.
2 ans.
D'accord.
De président à Rive.
D'accord.
Et c'est pas tout vieux, hein, ça fait 6 ans.
D'accord.
Et puis j'ai enchaîné, je suis revenu sur les terrains.
Oui.
Parce que c'était pas ma place.
D'accord.
Et après tout ça, bah, sur le plan historique, sur mes parcours d'entraîneur, bon, j'ai une 10aine de montées au niveau des seniors, sans compter les catégories jeunes. Et puis j'ai, avec l'équipe et le club de Rives, on a fait 7 tours de Coupe de France.
D'accord.
On est monté de D4 à R2.
C'est beau.
Ouais, pour oui. Sincèrement, c'est beau parce que dans les petits clubs de campagne, on n'a pas la facilité d'avoir de la qualité comme il y a dans le bassin grenoblois.
Ouais.
Et sortir des joueurs pour jouer et surtout pour accéder à ces niveaux-là, c'est très compliqué.
Ouais, ouais.
Et ça a été magnifique.
Oui, parce que ça demande des ressources financières, matérielles, ouais. Que souvent dans les clubs un peu ruraux, on a du mal. Hein.
Déjà, pour accéder, il faut de la qualité au niveau des joueurs. Et puis après, bien sûr, une envie de réussir. C'est ce qui s'est passé. Puis après, c'est sûr que derrière, il fallait trouver les moyens financiers. Et la tête de ce club qui était, paradoxalement, c'était mon frère.
D'accord.
Qui est beaucoup plus jeune que moi, qui, dans un moment difficile, on lui a demandé de prendre en charge la présidence. Et puis voilà, une réussite, puisqu'il a été... Il a été à l'honneur, puisqu'on est monté pendant sa période de présidence,
oui.
Son mandat, on a accédé en R2.
D'accord.
Et puis aussi, en parallèle, dans la même année, on a fait 7 tours de Coupe de France.
D'accord.
Et quand on a été éliminé par Lille Rousse à la maison 4-3.
D'accord. Voilà. Ouais, ça ne s'est pas joué à grand-chose.
Non, pas joué à grand-chose. Et si, bon, je ne peux pas dire si. Vous savez qu'à ce niveau-là, l'arbitrage penche un petit peu pour nos amis.
Oui, oui.
Et voilà, s'il n'y aurait pas, peut-être qu'on serait au 8e tour. Mais c'est comme ça.
Oui, c'est comme ça.
Et il y avait en présence mon ami Christophe Cuyla qui était venu me voir jouer
ce jour-là. D'accord.
Ouais. Et puis, après, j'ai arrêté. Je suis... parti à l'ASCOL, justement,
ouais.
2 années de responsable technique. Et puis, je suis venu au club d'à côté, de l'US La Murette,
ouais.
Là où je les ai pris aussi en D2.
Mm-hmm.
On est monté en D1.
Ouais.
On est resté 3 ans. Et au bout de 3 ans, on est monté aussi, historiquement pour le club, en Ligue, en R3.
D'accord.
On a fait une saison en R3 et au bout de la 5e année, j'ai arrêté.
Voilà. D'accord.
On a fini 4e et je suis allé entraîner Moiran qui était en R3.
Voilà. D'accord.
Et on a cette année-là avec la Murette, quand on est monté d'excellence en R3, on a fait 7 tours de Coupe de France aussi.
Ah oui.
Et on est allé malheureusement perdre comment ça s'appelle, à un club du Sud. Ça va me revenir. Je l'ai oublié parce que c'est un club qui est magnifique et,
ouais.
Et une belle plage, mais bon, ça va me revenir.
D'accord.
Et on a perdu là-bas 2-1 au 7e tour aussi.
Ouais, d'accord.
Et puis voilà, sur mon parcours, il est énorme parce que je n'ai jamais arrêté.
Ouais, ouais.
Hormis 4-5 ans, j'ai fait joueur un peu par là, J'ai dépanné les U19 phase retour à Hébin.
D'accord.
Et puis j'ai fait aussi dépanner le club de Voiron avec leur équipe 2 qui n'avait pas d'éducateur.
D'accord.
Mais principalement, j'ai toujours été au sein, aller à la tête d'une équipe sur un banc de touche.
D'accord. Ok. Et ce qui est vachement intéressant dans ce que vous dites tous les deux, c'est que finalement, il y a un dénominateur commun. À votre parcours, c'est un petit peu Christophe Cuyla, finalement. Mmh. Et du coup, je trouve ça génial parce que c'est un passage de témoin peut-être qui se fait peut-être aussi de manière un petit peu plus naturelle quand vous connaissez déjà la personne qui avait avant vous. Moi, Christophe, il m'avait dit qu'il avait glissé un petit peu ton nom, Manu, au président par rapport à quand il a annoncé son départ.
Ouais.
Et c'est vrai que je trouve ça bien.
Bah, Christophe, en fait, on se connaît depuis très longtemps. Puisque quand il jouait à Vorep, du temps de la grosse série,
ouais.
J'allais le voir jouer.
Ouais.
J'étais déjà éducateur, bien sûr, à Rives, mais j'allais le voir jouer tous les moments parce qu'ils ont fait des beaux parcours, que ce soit en coupe, que ce soit en championnat. C'était vraiment magnifique, c'était une belle équipe à voir jouer.
Ouais.
Et on a fait connaissance, justement, parce que j'ai une amitié énorme avec des joueurs de Vorep.
Oui.
Et on faisait ces troisièmes mi-temps magnifiques.
Oui.
Et puis Christophe était bien sûr dans l'eau,
hein,
on est bien d'accord.
Oui,
alors ça fait depuis un moment qu'on se suit, je sais très bien quand c'est qu'il est venu aussi à la vallée.
Oui.
Et on est resté en contact, depuis, vraiment une grande amitié, on est comme des petits frères.
Ouais, d'accord. Voilà. Ok, super. Et donc du coup, moi j'aimerais bien savoir comment ça s'est fait du coup la nomination de Manu. Est-ce que toi aussi, Boub, tu as assisté à la décision? Parce que tu avais été reçu aussi pareil, au départ tu l'as dit, pour le même poste. Et comment ça s'est fait?
Alors au niveau de la nomination de Manu, non, j'étais pas
dans la décision.
Non, d'accord. J'étais pas dans la décision. Je pense qu'il fallait faire très vite aussi pour le club.
Oui.
Parce qu'il n'y avait rien d'acté encore, donc ils étaient dans la recherche.
Oui.
Ils avaient reçu plusieurs profils,
oui,
au niveau des coachs.
Oui.
Je pense que la venue de Manu est un bon apport pour le club,
oui,
de par son expérience déjà.
Mm-hmm.
Et voilà, je pense qu'on est tous contents.
D'accord. Ok, bah super. Et au niveau du projet maintenant, on va en parler plus en détail, parce que le président, il est venu un petit peu en parler, notamment, il n'y a pas très longtemps, justement, quand on a un petit peu officialisé votre venue à tous les deux. Il est venu parler un petit peu de cette volonté de restructurer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, vous, sur qu'est-ce que vous allez apporter à ce club? Qu'est-ce qu'on vous a demandé aussi? Quels sont les objectifs, peut-être à court, moyen terme? Qui veut répondre?
Au niveau de l'objectif, il est très clair, c'est de restructurer, comme tu viens de le dire, Kevin. C'est que aujourd'hui, en discutant avec Franck Agassi,
oui,
ils étaient beaucoup penchés sur les festivités, les
animations.
Les animations, ils en avaient oublié un peu le sportif.
Oui.
Donc le sportif vivotait plus ou moins au sein de la vallée. Aujourd'hui, ils veulent remettre le sportif au centre. Et c'est un projet qui m'a intéressé d'ailleurs parce qu'on parle sportif. Et aujourd'hui, en faisant un peu le diagnostic du club, effectivement, c'est vrai que beaucoup de choses doivent changer.
Mm-hmm.
On va garder les choses
qui fonctionnent
et on va mettre en place d'autres choses.
Oui.
Notamment sur, comme j'ai dit, ma priorité aujourd'hui, ça sera vraiment la formation des éducateurs,
oui,
pour pouvoir transmettre aux pratiquants.
D'accord.
Ça sera vraiment la priorité pour moi du club.
Oui.
Ensuite, sur le long terme, de redonner aussi une image de la vallée de la Grèce,
oui,
aussi bien sur le plan du respect, de
la convivialité,
la discipline. Mm-hmm. Parce que quand on regarde, quand même, ils ont pris pas mal de points de pénalité, notamment ces deux dernières saisons.
Oui.
Voilà, remettre des valeurs,
les
valeurs qui y sont déjà, mais qui ne sont pas véhiculées, peut-être... et qui sont transparentes pour l'instant,
ouais,
même s'il y a de vraies valeurs.
Hein. Oui, bien sûr.
Même s'il y a de vraies valeurs. Et puis, faire monter aussi des équipes en ligue.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, avec trois communes quand même, avec 460 licenciés, et je sais qu'on peut en avoir beaucoup plus,
ouais,
si nos équipes étaient dans un niveau assez intéressant.
Mmh.
Voilà. Et puis, comme je disais... avoir une école de foot, une formation qui véhicule des bonnes choses.
D'accord.
Surtout, notamment sur le plan sportif.
D'accord,
qu'on puisse faire progresser ces gamins.
Oui.
Voilà, qu'on puisse sortir des joueurs.
Rendre le club attractif à tous ces niveaux que tu viens de dire.
Exactement, exactement.
Ok, ça marche. Et d'un point de vue du coup plus senior, quel est toi Manu, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quels sont tes objectifs tout simplement?
Ben moi, les objectifs, c'est toujours les mêmes, c'est la gagne.
C'est la gagne,
hein, on ne change pas. Je suis un compétiteur et, et je fais pas ça pour rien. À chaque fois, il faut que quand on rentre, on ait des idées de gagner, de réussir. Mais en fait, Christophe, ce qu'il a fait depuis 18 ans, moi, avec mon expérience... ça a été très difficile, je pense, à des moments pour lui. Pourquoi? Parce que soit l'effectif et le groupe changent pratiquement toutes les trois années.
Oui.
Je ne pense pas que ça a été le cas.
Oui.
Et parce que notre message, au bout de 3 ans, à la 4e année, c'est déjà difficile. Si tu ne renouvelles pas l'effectif, très difficile de faire passer. Et moi, tout le mérite est vraiment pour lui, en toute honnêteté, d'avoir passé 18 ans à la tête des seniors. Parce que même pour lui, ne serait-ce que pour lui et pour les joueurs, t'arrives sur le côté usure.
Oui.
Et je pense que la vallée, elle avait besoin d'un changement. Bien sûr, il va y avoir un autre projet de jeu. C'est une certitude, puisque chaque entraîneur
a ses idées.
Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde.
Oui.
Ouais.
D'accord. Et toi, quelle est ta philosophie de jeu, justement ?
Ah, mais moi, je suis très défensif. J'ai déjà une priorité. Je commence par les fondations, comme une maison. Et à partir de là, il y a toujours des opportunités de marquer, d'avoir des situations. Voilà. Si demain, comme je dis à tous et tout le monde, toutes les équipes que j'ai drivées, si demain on a des joueurs et des profils de joueurs pour jouer à la Barça, on jouera à la Barça. Et aujourd'hui, je ne pense pas que dans nos petits clubs amateurs, ce soit le cas. Et puis qu'on ait cette facilité de choix de joueurs et des profils de joueurs pour pouvoir s'adapter à ces situations. Aujourd'hui, on part sur, bien sûr, un projet de jeu qui est bien géré, une bonne gestion du match pendant les 95 minutes. Et puis après, si on n'a pas pris de but, on a fait minimum match nul.
Bon, écoute, c'est déjà ça. Du coup, toi, tu joues à 3 ou à 5 derrière ?
5 derrière, sans possession, et 4-4-2 ou 4-3-3, ça dépend.
D'accord, ok.
On ne va pas tout révéler aujourd'hui.
Ah ben non, il ne faut pas tout dire. Il faut garder un petit peu de surprise.
Bien sûr. Sinon, il y en a qui nous écoutent et qui vont prendre
des papiers. Surtout, il faut garder une part de surprise. Il n'y a pas de souci. On a parlé un petit peu de Mercato avec Franck Agassi la dernière fois qu'il est venu. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver ou qui sont arrivées récemment d'un point de vue recrutement, soit d'éducateur ou soit de joueurs.
Là, on a fait, je pense que le recrutement, mais il n'est pas terminé, puisqu'il nous manque à peu près un joueur encore par ligne.
Oui.
Vu les départs qui ont été annoncés, et peut-être, on ne sait pas ce qui va se passer encore par la suite. On a besoin de 3 joueurs de qualité pour pouvoir compléter déjà les arrivées qui sont déjà intéressantes.
Oui, bien sûr.
Très intéressantes. Mais il faut toujours un peu plus. Mais déjà voir, parce que moi, je ne connais pas le groupe.
Je suis
sur des écoutes à droite, à gauche.
Oui.
Parce que des fois, il y a des joueurs qui peuvent sortir, se révéler. Puis voilà, c'est ça. Déjà, faire confiance à ceux qui sont déjà en place, c'est mon objectif.
Tu as voulu garder tout le monde, toi, quand tu es arrivé ?
Complètement. On doit donner la chance à tout le monde. Moi, je parle des principes qui sont celui-ci. Tout le monde a le droit d'avoir sa part de chance. Et si éventuellement ça ne fonctionne pas, on ira chercher, voir ce qu'on a besoin pour l'équipe, pour améliorer l'équipe. Mais sinon, la priorité, c'est de donner la chance à tous les joueurs qui sont déjà du cru de la vallée.
D'accord. Ouais. Ok, ça marche. Et d'un point de vue...
Puis, à savoir que des fois, j'arrive toujours à tirer un maximum de mes joueurs. Même un pied carré, j'arrive à le remettre droit.
Oh bah ça c'est bien ça, je vais venir te voir alors Manu, parce que moi j'ai bien les pieds carrés moi.
C'est question de confiance et, c'est une forme de voir. Moi ça a été toujours ma philosophie, c'est pour ça qu'il y a une réussite derrière, parce que faut pas croire que dans le Nord-Isère on a des super joueurs, on a des généreux, ils sont tous généreux, mais après qualité footballistique c'est au GF 38.
Pas forcément. C'est ce que tu disais il y a 2 minutes avec le coach qui avait à la vallée au nom de Christophe. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu as passé 18 ans, tu as une vision du jeu, tu as une vision de tes joueurs. Et des fois, tu en oublies les joueurs qui sont à côté parce que tu es resté sur tes points de vue. Aujourd'hui, on a, que ce soit au GF, que ce soit dans les clubs amateurs, des fois, on passe à côté de joueurs parce qu'on n'a pas tous la même vision du jeu, on n'a pas tous la même vision du joueur. Alors que peut-être ce joueur-là, nous, on passe à côté, alors que si on le met sur le terrain, il peut apporter beaucoup plus que ceux qui sont à côté. Et c'est ça le rôle d'un éducateur aussi. Mais c'est vrai que quand on est pris pendant 2-3 ans, 4 ans, ça m'est arrivé, moi, au GF38, de mettre un joueur de côté, parce que j'estimais qu'il apportait pas ce qu'il devait apporter par rapport à ma façon de jouer.
Oui.
Mmh. Et l'année d'après, quand il passe avec un autre éducateur, c'est lui, il a une autre façon de jouer et c'est ce joueur-là lui apporte deux fois plus que c'est un autre joueur.
Oui, bien sûr.
Et c'est pour ça que à côté de ça, c'est et puis un entraîneur, j'ai envie de te dire aussi, Manu, quand il est tout seul, en règle générale, c'est très compliqué. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'à deux ou à trois, et puis échanger après les séances d'entraînement, échanger après les matchs, on arrive des fois à voir des choses et on nous amène du plus. Un entraîneur adjoint peut nous apporter un plus que nous, on n'a pas forcément vu.
Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il y a beaucoup de clubs qui fonctionnent comme ça. C'est vrai qu'à la Vallée, depuis quelques temps, maintenant, ça fonctionne aussi comme ça dans les catégories entre guillemets phares. Il y a souvent deux hommes pour une équipe et c'est quelque chose que tu as voulu, toi, Boub, aussi, avec le club, garder, même au niveau des jeunes.
Oui, même au niveau des jeunes, parce qu'aujourd'hui, je reviens sur ce que je viens de dire, c'est que le travail à deux est peut-être plus pertinent que le travail seul. Mmh. Au bout d'un moment, des fois, on se perd. Et puis, on se remet en question de temps en temps, mais on n'a pas forcément la solution.
Oui.
Alors qu'à deux, la personne qui est à côté de nous peut nous apporter la solution.
D'accord.
Voilà, quand on est sur une situation match, on doit prendre un exemple, on va se focaliser uniquement sur notre équipe, mais en aucun cas, on va se focaliser sur l'équipe adverse.
Oui.
Donc, on va rester sur nos principes de jeu, même si on est en difficulté, mais on ne changera rien du tout.
Mmh.
Alors que si on est à deux, avec une prise de note de notre collègue, à la mi-temps, on peut réajuster le schéma de jeu, et parce que l'équipe adverse nous pose des problèmes là où on ne les a pas vus.
Oui.
Et derrière, à la mi-temps, on réajuste, et puis on revient sur une deuxième mi-temps un peu plus
performante. Oui, bien sûr.
Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, oui, être à deux, c'est primordial, c'est essentiel.
Quatre oreilles, quatre yeux valent mieux que deux.
Non, mais il n'y a pas photo.
Oui.
Et fur et à mesure qu'on avance en tant qu'éducateur, moi qui ai beaucoup d'années derrière moi, sincèrement, comme dit Boub, deux, et ça m'a manqué beaucoup de fois.
C'est vrai ?
Ouais.
Bon. Eh ben écoutez, c'est je suis d'accord avec vous sur ce principe là. Moi je pense que de toute façon même on le voit même au niveau professionnel, ils sont deux, il y a un entraîneur principal, il y a un entraîneur adjoint, même s'il y en a un qui est un peu plus sous le feu des projecteurs, et puis il y en a aussi qui gardent leurs adjoints pendant très longtemps et qui sont souvent on voit souvent le même tandem pendant plusieurs années donc moi je suis d'accord avec vous. On va marquer une courte pause, messieurs, on va revenir après avec notre petit jeu du questions-réponses. En attendant, on va mettre un petit morceau de musique que j'ai choisi. On va mettre In Your Eyes de The Weeknd. Et bien à tout de suite sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide.
À foot, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
De retour sur RKS pour votre émission Rien à foutre. On attaque la deuxième mi-temps de cette émission. Je suis toujours avec Manu Ribeiro et Boubaker Bouchlaguem du FC Vallée de la Grèce. On parlait justement un petit peu du renouveau, du recrutement, du mercato, de la philosophie de jeu, du projet. On a vraiment balayé pas mal de thèmes. Je voulais quand même qu'on termine un petit peu aussi sur le recrutement. On a parlé des recrutements un petit peu de joueurs et de ce qui allait changer au niveau de l'équipe senior. Mais Boub, tu voulais parler aussi des éducateurs qui sont venus rejoindre ce nouveau projet.
Oui, comme je vous ai dit, ma priorité, c'est les éducateurs. Et oui, surtout garder ce qu'on a au sein de la Vallée de la Grèce, hein, bien sûr, hein, on ne va pas s'en séparer. Sur la première réunion que j'ai faite, j'ai sondé un petit peu les éducateurs. Il y a 90% des éducateurs qui veulent se former, donc c'est déjà intéressant.
Oui.
Et travailler vraiment sur une équipe d'éducateurs qui puisse apporter une valeur ajoutée à la Vallée. J'ai pris l'initiative de faire venir deux éducateurs du GF38 aussi.
Moi, ouais, c'est bien.
Qui peuvent faire avancer aussi le club. En les personnes de Chabana Noir, qui était responsable des U13 et U12 au GF38.
Oui.
Qui a eu une expérience aussi avec le foot en 11, et notamment les U18.
D'accord.
Il a fait finale de la Danel Cup au stade Vélodrome à l'époque.
Ouais.
L'année suivante, il a été finaliste de la Coupe nationale à Cap-Breton.
Ouais.
Voilà. Je le remercie d'ailleurs, j'y suis allé à sa place parce qu'il était malade.
D'accord. Bon, ça va, il y a pire comme remplacement quand même.
Ah, c'est sûr. Et puis, j'étais accompagné d'ailleurs de Tarek Touati à cette époque-là, donc, que j'ai fait venir aussi.
D'accord.
Qui lui était en charge à l'époque des U13 mixtes.
D'accord.
Qui a fait aussi ses classes au GF38, qui avait ses enfants qui pratiquaient aussi au GF.
Oui.
Dont un qui est Zinedine, qui avait signé aussi à Saint-Etienne, qui sont aujourd'hui professionnels en Tunisie.
D'accord.
Et qui était en charge aussi, qui a fait une montée avec les U18.
D'accord.
Voilà. Et qui sera lui en charge des U20.
D'accord.
Au sein de la Vallée.
D'accord.
Une catégorie qu'on vient de créer. Et Chabana Noir sur la catégorie 13.
D'accord, ok. Bon, bah, du coup, c'est des personnes qui ont épousé ce nouveau projet avec toi. Et bah, écoute, j'espère que tout se passera bien. Il n'y a pas de raison, de toute façon. Quand on a des personnes compétentes et motivées autour d'un projet, il n'y a pas de raison.
Je dis tout seul. Enfin, tout seul, on ne peut pas avancer. Mais à plusieurs, on peut avancer, mais on n'ira pas aussi loin que si on était tous ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, on va avancer. Faut qu'on tire la couverture du même côté.
Oui.
Pour que le club puisse vraiment se restructurer correctement et qu'on puisse avoir une image de la Vallée au sein même de la Ligue, Rhône-Alpes aussi, pas que du district.
Oui. Voilà. Et moi, je vais retenir quelques mots du coup de ce que vous avez dit un petit peu tous les deux autour de ce nouveau projet. Comme ça fera une petite conclusion. On pourra après passer au jeu. Donc, l'envie de changer un petit peu l'image de la Vallée de la Grèce, qui n'est pas une mauvaise image, mais qui avait besoin notamment à certains niveaux d'être redoré d'un point de vue déjà de l'attractivité, d'un point de vue du sportif aussi, parce que c'est un club qui, c'est vrai, qui fait beaucoup de choses, mais on a besoin aussi d'en parler pour du foot et pas que pour l'affaire Métalloriel ou le loto, etc. Même si c'est manifestations, le club en a besoin. Et notamment l'envie de garder des éducateurs, de les former et de faire venir justement des éducateurs aussi déjà formés pour justement épouser un projet sportif global qui ne concerne pas que les seniors de Manu, mais qui concerne évidemment tout le club à toutes les échelles.
Aujourd'hui, si on parle de formation, de préformation, le but d'un club, c'est vraiment, enfin pour moi, ça restera que mon point de vue, c'est que de former des joueurs pour qu'ils puissent atteindre le niveau. Aujourd'hui, on est en R3, mais peut-être que demain, on sera en R2 et puis peut-être en R1, mais c'est vraiment de les amener au plus haut niveau dans notre club. Voilà. Et s'il y a possibilité, bien sûr, on ne les enfermera pas. S'ils doivent aller signer dans un club, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de former les joueurs du club pour pouvoir faire les beaux jours de ce club.
Oui.
Voilà. C'est la priorité.
Bien sûr.
La priorité.
Voilà. Ça marche.
Puis, c'est vrai qu'il a raison, Boub, parce que quelque part, ça nous évite chaque fin de saison d'aller piocher à droite, à gauche.
Oui.
Alors que si on a des joueurs déjà de niveau.
Bien sûr.
Chez nous, ça sera plus facile de les contenir et de les maintenir au sein du club.
Puis parce qu'il ne faut pas qu'il y ait non plus un trop gros gap entre le niveau senior et le niveau des jeunes. Parce que si les jeunes, on veut les former justement au meilleur niveau senior, bah, il faut qu'eux soient aussi préparés à ce niveau-là. Et il faut justement les accompagner, je pense, ces équipes-là, vers des niveaux qui s'approcheront ou qui seront peut-être équivalents à ce niveau senior d'un point de vue division.
Bien sûr. Et pour ça, il faut qu'on ait un langage commun avec tous les éducateurs. Il faut qu'on ait un travail commun pour qu'on puisse, voilà, aujourd'hui, avoir des joueurs de qualité. Après, on n'est pas un club professionnel. On ne peut pas se permettre d'aller chercher des joueurs à droite et à gauche. Donc aujourd'hui, on va être dans la formation, tout simplement.
D'accord.
Et puis, vous savez très bien comme moi qu'un joueur, quand il est issu du club, et il va mouiller le maillot pour son club. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de mercenaires.
Exactement.
Dans le monde du football, parce que voilà,
Et même dans le monde amateur,
voilà. Même dans le monde amateur.
C'est le jeu. C'est le jeu aujourd'hui, c'est le jeu. Tout se vend, donc.
Oui, voilà. C'est ça.
Nous, on va essayer de travailler là-dessus.
Ok, pas de souci. Eh bien, merci pour ces premières réponses. Donc maintenant, on va passer au jeu, justement, du question-réponse. Donc là, c'est l'instant un peu détente. On va parler un petit peu de ce qui vous fait vibrer dans le foot. Donc l'idée, c'est de répondre assez rapidement pour avoir la réponse la plus sincère possible. Vous répondez chacun à votre tour. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse discuter calmement de tout ça. Ça va, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Quel est votre club de cœur?
Rive.
Ok, Manu. Boub.
GF 38.
Le GF 38. Bon, c'est des clubs par lesquels vous êtes passé, c'est pas très surprenant.
Tout à fait.
D'accord. Et s'il y a un club, alors un club professionnel, Boub l'a dit, mais toi, un club professionnel, Manu, tu dirais lequel?
Porto.
Porto? Eh ben oui, je suppose que tes origines.
Tout à fait. Portugaise.
Oui. Bon, c'est un très grand club, hein, quand même,
bien
Porto.
Sûr.
Hein,
niveau... Bien sûr, de Ligue des Champions.
Eh oui.
De Ligue des. La Coupe des Coupes.
Ouais.
On appelait ça la Coupe des Coupes. Maintenant, c'est la Ligue Europa.
Oui.
Avec Madjer?
Avec Madjer qui nous a donné la première Ligue des Champions.
Eh ouais. Eh ouais.
La talonnade, la fameuse talonnade.
La fameuse Madjer, du coup. Madjer, hein,
Est restée.
Elle est restée. Aujourd'hui, je suis sûr que les jeunes, ils ne savent pas qui est Madjer, mais ils savent ce que c'est faire une Madjer.
Ouais, exactement.
Ok. Bien. Le joueur qui vous a le plus marqué dans votre enfance?
Dans mon enfance, Eusebio.
Eusebio, portugais encore, mais bien très sûr. Très grand, très très grand joueur aussi.
Ouais.
D'accord. Ok. Toi, Boub?
Cruyff.
Ah oui, aussi un des plus grands joueurs hein, qui est cité encore dans les bouquins d'histoire du foot. Deux joueurs qui sont plus là aujourd'hui. Hein, ils sont partis rejoindre. Un monde meilleur,
peut-être. Exactement.
Ok, ça marche. Pourquoi, justement, pourquoi Eusebio et pourquoi Cruyff? Qu'est-ce qui vous a vraiment plu chez ces joueurs-là?
Bah, pour moi, c'est pour valoriser. Aujourd'hui, on est en plein dedans.
Oui.
Ces personnes de couleur.
Oui.
Qui étaient toujours les derniers de la chaîne.
Oui.
Et Eusebio, il a démontré qu'avec des valeurs, des vraies valeurs qui est celle de l'envie,
oui.
de réussir. On arrive à faire quelque chose et à obtenir, puisqu'il a été aussi Ballon d'Or.
Oui.
Voilà, à obtenir quelque chose. Et ça, ça me touche. Voilà, tout ce respect qui est le respect des valeurs me touche énormément. Et c'est pour ça que pour Eusebio.
Ah, d'accord, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'un footballeur, il y en a eu des grands footballeurs, des très, très bons joueurs, mais des bons joueurs qui l'ont été aussi en dehors du terrain et en dehors que par l'aspect technique. Bien je trouve sûr. Que c'est encore plus plaisant, je trouve. Et moi, je j'arrive plus en tout cas à apprécier un joueur qui se comporte mal en dehors du terrain. Donc je te rejoins là-dessus, Manu, même si moi j'ai moins connu Eusebio que toi.
Ah, bien sûr.
Et toi, Boub?
Moi, son élégance,
ouais.
déjà, au niveau Cruyff, footballistique. Ouais. Voilà. Et puis, c'est un joueur qui parlait football aussi.
Ouais. Et puis, un très grand entraîneur aussi.
C'est lui qui a inculqué le jeu à la Barcelonaise.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Le football, on parle football.
Voilà, exactement. Bon, bah, parfait. Maintenant, le joueur actuel qui vous impressionne le plus?
Ronaldo.
Cristiano?
Ouais.
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 Attends, tu réponds 100% Portugal.
Non, c'est... En fait, j'étais pas trop d'accord avec lui il y a quelques années.
C'est vrai. C'est marrant, comme moi.
Et puis, au fil du temps, je lui donne vraiment... Je lui tire mon chapeau. Ouais. Respect. Ouais. Respect, Ronaldo.
D'accord.
Voilà, il montre... C'est un exemple aujourd'hui, si un joueur veut se... Un jeune joueur qui est en pleine carrière, qui veut demain devenir professionnel, ben, il n'a qu'à le suivre.
Voilà, ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple.
Un bon exemple.
Sur le point de vue du travail.
Tout.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est pareil, je n'aimais pas trop le joueur. Et puis, bon, quand il a signé dans mon club de cœur de la Juventus, t'es quand même content quand il y a un joueur comme ça qui vient te faire changer un petit peu aussi la dimension de ton club, même si c'est un club déjà qui a une grosse dimension, mais tu passes quand même dans une autre stratosphère quand même avec un joueur comme ça.
C'est clair. Puis, il est toujours le premier dans tous les domaines.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Voilà. Exactement. Il veut l'envie de réussir, ça c'est des... Même à son âge, qui est démonstratif pour tous et tout le monde.
Oui, bien sûr, je suis d'accord.
Démonstratif.
Et toi, Boub?
Je dirais pareil que Manu.
Ouais.
Aujourd'hui, il y a deux extraterrestres dans le monde du football, qui sont Messi et Ronaldo,
ouais.
Qui ont tout donné pour être au meilleur niveau,
ouais.
Qui travaillent jour et nuit, on va dire, pour toujours rester en haut de l'affiche.
Oui.
Mais je vais plus penser pour Ronaldo parce que c'est un joueur qui a pu démontrer sur trois clubs différents qu'il était capable de rester toujours au même niveau avec des joueurs différents autour de lui. C'est un joueur qui n'attire pas les foudres sur lui et qui n'a pas besoin de qu'on joue pour lui parce qu'il sera toujours là au bon endroit, au bon moment pour travailler.
Oui.
Et aujourd'hui, si on regarde, c'est mon point de vue encore, beaucoup vont se fâcher. Mais...
Non, mais tu sais, on est tous différents, hein, il en faut pour tout le monde.
Bah, bien sûr.
Quand on voit aujourd'hui un Messi qui est extraordinaire, hein, je n'enlève pas ses qualités footballistiques et puis c'est son travail sur le terrain, mais depuis qu'il a perdu Iniesta et Xavi,
il
manque quelque chose.
Il manque quelque chose.
Il lui manque quelque chose.
C'est vrai.
Alors qu'un Cristiano Ronaldo aujourd'hui... n'importe quel club, que ce soit à Manchester, quand il était au Portugal, à
Sporting de Lisbonne,
qui est parti à Manchester. Il a démontré qu'il était capable. Toutes les années qu'il a pu passer au Real de Madrid.
Ouais.
Et aujourd'hui, à la Juve, où il finit encore Pichichi à la Juve.
Ouais.
Donc voilà, forcément, on peut dire que respect. Quoi.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord.
Et s'il fallait que je mette aussi une autre personne en avant, j'aurais mis Thiago Silva.
D'accord, qui vient du coup de l'annoncer qu'il partira du PSG.
Mais c'est pour ses valeurs, son travail.
Ouais.
Une personne humble
qui
ne s'est jamais senti supérieur à qui que ce soit. Et qui a fait aussi plusieurs clubs où il s'en est sorti.
D'accord. Voilà. Tu penses quoi justement de toute cette réputation qu'il a eue, notamment au PSG, par rapport à ses quarts de finale, ses huitièmes de finale perdus en Ligue des Champions, où on lui a souvent mis un petit peu tout sur le dos. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Moi, personnellement?
Oui, oui.
C'est la faute d'une équipe, pas d'un joueur,
mmh.
tout simplement. C'est la faute d'une équipe.
Pour toi, on perd en équipe, on gagne en équipe.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de clubs, on tire la pierre sur l'éducateur ou l'entraîneur. Mmh. Aujourd'hui, l'éducateur est mis en place et puis le travail doit être accompli sur le terrain par les joueurs. Mmh. On a pu faire des exemples avec des éducateurs en les limogeant au bout de 5-6 journées. Mmh. On s'aperçoit que l'éducateur qui vient derrière ou l'entraîneur qui vient derrière, il va faire 1-2 bons matchs et puis après derrière, bah, plus rien. Mmh. Aujourd'hui, si les joueurs ne suivent pas l'entraîneur, c'est sûr que ça va être compliqué pour l'entraîneur. Mmh. Comme disait Manu, au bout d'un moment, le message aussi ne passe plus. Et puis, il suffit de pas s'entendre avec une personne dans le groupe qui est influente sur...
Dans le noyau dur.
Voilà. Et ben, l'entraîneur, il se retrouve en difficulté. Mais je ne pense pas que ce soit la faute d'un seul joueur. C'est impossible.
D'accord.
Comme on dit, hein, pour prendre un but, il faut que le ballon vienne de derrière. Mmh. Et puis qu'il avance, qu'il arrive jusqu'à la cage adverse. Et il y a du chemin avant
d'arriver. Bien sûr. Il y a 11 joueurs à passer, enfin 10 joueurs à passer.
Donc ce n'est pas la faute d'un seul joueur, c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, on peut dire qu'il nous a fait gagner aussi pour arriver au 8e de finale contre Chelsea, grâce à lui.
Mais oui, bien sûr.
Donc voilà, mais après, il y a les joueurs, il y a les médias, il y a les spectateurs, il y a les supporters.
Puis c'est peut-être plus facile de taper sur un joueur aussi qui justement ne fait pas trop de bruit, qui, comme dit, qui est humble et qui... Puis c'était le capitaine de l'équipe aussi, donc c'est peut-être plus facile de taper sur ce genre de joueurs-là plutôt que sur des joueurs qui sont peut-être un peu plus grande gueule.
Quand on prend aujourd'hui un entraîneur, par exemple, Laurent Blanc, je vois personne qui a fait mieux que lui jusqu'à présent au Paris Saint-Germain.
Oui, c'est vrai.
Mmh. Alors qu'on l'a limogé parce qu'il n'avait pas les résultats en Ligue des Champions. Mmh. Mais on a eu Tuchel derrière, il n'a pas fait mieux.
Mmh. Emery
qui n'a pas fait mieux.
Ouais.
Donc voilà.
C'est... Ancelotti.
Ouais, exactement. Avec des joueurs différents, avec des joueurs de qualité différente. Mmh. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est peut-être pas...
Qu'avec des moyens qui sont toujours aussi importants.
C'est ça.
Oui, bien sûr. Mmh. Ok, ça marche.
Un petit aparté, qu'il ne faut pas oublier, puisqu'on parle de club de cœur.
Oui.
Et de joueurs, de valeur de joueurs. Moi, je ne voulais pas oublier Rabah Madjer, parce que sincèrement, c'est celui qui nous a fait... Moi, qui suis pourtiste à 100%.
Oui, oui.
Sincèrement, il nous a donné quelque chose qu'on n'aurait jamais espéré et un sacré joueur. Sincèrement, un sacré joueur de football.
D'accord, ok. Voilà. Eh bien, écoute, c'est noté, c'est enregistré. Ouais. On n'oubliera pas Rabah Madjer, pas de souci. Est-ce qu'il y a un joueur que vous aimez moins ?
Neymar.
Oui, pourquoi ?
La frime.
Ah oui, on parlait justement de comportement de joueur.
C'est un foutage de gueule par rapport à ce qui... à son...
Son niveau.
Son niveau et surtout son rendement sur le terrain et ce qui touche financièrement.
Oui. Tu parles de tout ce qui se passe avec le PSG, le Barça, je veux revenir, je ne veux pas revenir.
C'est ça. En fait, on a les deux extrêmes. On a l'extrême Ronaldo et tu as l'opposé qui est Neymar. Voilà, c'est pour ça que Neymar n'arrivera jamais au niveau, même pas à la cheville de Ronaldo.
D'accord. Okay.
C'est mon avis personnel.
D'accord. En tout cas, je te remercie de me donner un nom parce que tu sais que quand je pose cette question, on a dû avoir peut-être une vingtaine ou une trentaine d'invités depuis le début de l'émission. Et ben, je crois que vous êtes deux à m'avoir donné un nom parce que quand je pose la question, personne ne sait me dire bah non, il n'y en a pas que j'aime pas, etc. Et moi, je pourrais t'en citer 10 des joueurs que j'aime pas.
Bien sûr, bien sûr.
Et c'est ça que je trouve ça marrant. Les gens, ils ont l'impression qu'ils n'osent pas trop dire qu'ils n'aiment pas un joueur ou un autre joueur. Donc voilà. Je te remercie pour cette réponse, Manu.
De rien, Kevin.
Et toi, Boub ?
Bah, tu vas être déçu de ma réponse parce que c'est pas qu'on n'aime pas. Ouais, c'est pas qu'on n'aime pas. C'est pas une question. Je suis franc, moi, je suis direct. Si j'aime pas quelqu'un, je lui dirai en face. C'est pas ça. C'est qu'on peut pas dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, j'aime pas leur état d'âme, en fait.
Oui.
À tous ces joueurs.
Oui.
Tous ces joueurs-là, leurs états d'âme. C'est un business aujourd'hui. C'est un business. Et puis, comme je reviens encore un peu sur les médias, on peut mettre un joueur en haut de l'affiche et qu'on va lui faire prendre une valeur. Qui n'est peut-être pas la sienne, et puis où il va gonfler un peu le bourrichon. Et puis c'est là où ça va être un peu médiocre, parce qu'on en voit plein des joueurs aujourd'hui. On en voit plein des joueurs. Quand un gamin de 5 ans qui vient demander un autographe, il passe devant, il ne le regarde pas. Pour moi, ce mec-là, je ne l'aime pas.
Oui, je suis d'accord. Voilà.
Une personne, pour ne pas la citer, comme Ancelotti, qui disait à un moment donné, vous vous arrêtez tous pour signer les autographes. Ça, c'est des personnes qui sont appréciables. Voilà. Après, qu'on les aime pas, oui, moi je les aime pas, pas que une ou deux personnes, plusieurs personnes. Mmh. C'est pas juste leur caractère et leur...
Oui, oui, bien sûr. Voilà.
Mmh. Mais après, que j'aime pas une personne, parce que déjà, je la côtoie pas.
Oui, oui. Non, mais quand je dis j'aime pas, c'est... quand on dit j'aime pas, c'est pas j'apprécie pas, parce que c'est vrai qu'on les connaît pas.
C'est dans leur attitude.
C'est plus c'est en voilà. tant que footballeur voilà. et en tant que...
voilà, exemple. L'image que tu exemple. Renvoies. L'image, voilà. Mmh. C'est ça. Non, mais on a compris.
Ouais. Ouais. Les attitudes, franchement, ouais. Bah, quand on parle de... la Coupe du Monde avec l'équipe de France, des attitudes comme celle-ci, on ne veut plus en voir non plus.
C'est-à-dire Ah, Nagina, tu parles. Oui, d'accord. Voilà. Oui, oui, bien sûr.
C'est, voilà, ils sont tous là, près de la télé, pour savoir s'ils sont pris en sélection en Coupe du Monde. Et puis, une fois qu'ils sont dans le bus, ça y est, c'est terminé. C'est une autre personnalité. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est des manières de véhiculer des choses à des gamins qui ne sont pas intéressantes.
Oui, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est... alors, peut-être que j'ai une mauvaise vision de la chose, mais j'ai l'impression qu'on est en France, on est particulièrement touché par ce phénomène de jeunes joueurs qui ne sont même pas trop connus ou qui viennent juste de démarrer en professionnel, par exemple, qu'on porte au nu très vite, notamment pour faire peut-être monter un petit peu aussi leur valeur marchande. Au final, on a l'impression que les joueurs en France sont devenus un petit peu on voit que des sous, en fait, quand on voit ces joueurs-là, on ne s'intéresse même plus sont. Eux, ils prennent vite le bourrichon parce qu'on leur fait signer des contrats mirobolants et les clubs étrangers leur proposent des choses absolument démentielles. Et le nombre de casses après qu'on a sur ces joueurs qui, au final, n'éclosent jamais ou qui finissent dans l'oubli, etc. Et j'ai l'impression que je me trompe peut-être, mais c'est peut-être un syndrome en France, je ne sais pas pourquoi. Mais
c'est ça la problématique aujourd'hui des clubs aussi, amateurs ou professionnels. Parce que par le biais justement de ces médias ou de ces contrats qui sont signés à des sommes mirobolantes, c'est que derrière nous, la problématique, elle arrive autrement.
Oui.
Avec la problématique qu'on connaît tous, la problématique des parents autour d'un terrain de football.
Oui, bien sûr.
Parce que pour eux, leur fils, c'est le meilleur. Il doit jouer plus que les autres. Et mon fils, il signera un contrat professionnel et il va me ramener 200, 300 000 euros par mois. Et bien, à cause de ça, on aura toujours des problèmes au bord d'un terrain de football. Mais justement, c'est parce que ces joueurs-là aussi, à un moment donné, sont peut-être mal entourés.
Oui, bien sûr.
Il y a leur entourage aussi qui est là. Moi, je prends le cas de ces gens-là qui véhiculent des bonnes valeurs, que ce soit Ronaldo, que ce soit Messi, que ce soit Thiago Silva, comme je l'ai cité tout à l'heure, ou encore bien d'autres.
Il y en a plein qui
se consacrent uniquement sur le sportif et tout ce qui est aspect financier, je pense qu'ils sont très bien entourés. Et à côté de ça, on n'entend pas des mauvaises choses.
Ils font pas trop de vagues. On entend parler d'eux pour ce qu'ils font sur le terrain et pas pour ce qui se passe autour.
Ce qu'on entend aujourd'hui, par exemple, sur des joueurs qui veulent pas baisser leur salaire par rapport à ce qui s'est passé
À Dimitri Payet,
par exemple. Enfin, voilà, c'est des choses qui devraient être bannies.
Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'on a un problème à ce niveau-là. Et j'espère que la génération qui arrivera sera peut-être meilleur de ce point de vue-là. On a
plus qu'à l'espérer. J'y crois pas trop.
Moi non plus.
Faut juste changer les mentalités, c'est tout.
Faut changer les mentalités, mais ça commence dès le plus jeune âge et ça commence par le foot amateur, je pense réellement.
C'est ce qu'on dit, c'est véhiculer les bonnes choses, des valeurs pour justement que ces spectateurs-là puissent revéhiculer, ces valeurs aussi.
D'accord. Ok, moi ça me va. Bah, écoutez messieurs, merci en tout cas pour ces réponses et pour le temps que vous nous avez consacré. On vous souhaite bonne chance pour la suite, pour cette nouvelle saison qui va démarrer, on l'espère, le plus vite possible, dès le mois de septembre et puis août peut-être pour la reprise des entraînements, dès qu'en tout cas les conditions seront réunies, en espérant que effectivement le projet qui est monté par ce club finisse tranquillement par se mettre en place. Alors peut-être que en un an ça sera compliqué, mais vous êtes là je pense pour quelques saisons, puis au moins pour lancer la dynamique de ce nouveau projet.
Du moment qu'on nous fait confiance, on sera là.
Ouais, ben voilà, c'est une très bonne réponse. En tout cas, n'hésitez pas à revenir me voir à revenir à la radio pour peut-être faire un petit bilan justement de ce qui est mis en place. On verra peut-être milieu de l'année prochaine. Ce sera peut-être l'occasion justement de débriefer un peu.
Aucun souci.
Eh ben, c'est parfait. Notre interview, elle touche à sa fin. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment.
Oui, très bien.
Bon, et bah, c'est super.
Et bonne continuation à Rien à foutre.
Merci Manu. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Rien à foutre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Boub, Manu, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Vous êtes ici chez vous. Si vous voulez revenir, c'est avec plaisir. Et j'en profite pour vous rappeler que vous aussi, vous pouvez participer à cette émission. Vous êtes président, éducateur, arbitre, bénévole, joueur, dirigeant ou même supporter. Vous voulez parler de votre club ou d'un sujet autour du football qui vous tient à cœur, bah, contactez-nous, contactez-moi. Vous êtes les bienvenus dans cette émission parce que Rien à foutre, c'est votre émission. Rien à foutre est présent sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre page Facebook et sur Instagram. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente après-midi sur RKS.
Rien à foutre, l'émission 100% football isérois avec Kevin sur RKS.
Eh ben magnifique. Voilà. La grande motte.